Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité, de m'avoir permis de venir jusqu'ici vous présenter un livre qui n'existe pas, ce qui est déjà une bonne manière de promouvoir la lecture et de faire des actions en faveur de la lecture. Et je les remercie donc doublement, d'une part parce qu'ils ont anticipé l'apparition de cet ouvrage, qui est pour moi un ouvrage à titre personnel important, en tout cas auquel je tiens beaucoup, et puis d'avoir maintenu mon intervention même lorsque on a su il y a quelques semaines déjà que l'ouvrage ne serait pas prêt pour vous le montrer en chair et en os. J'ai donné un titre à mon intervention, en tout cas en accord avec les organisateurs, qui ne correspond pas complètement ni exactement au sujet au thème de cet ouvrage, mais nous allons le voir. Cette question s'est posée à moi, cette question des représentations et les enjeux qu'il y a dans la place des lieux de la culture. Je m'interrogeais essentiellement à propos des bibliothèques dans la ville et dans les quartiers. Comment arrive-t-on des bibliothèques incendiées à se poser la question de comment une bibliothèque se place physiquement dans la ville et dans un espace quelconque, mais aussi quelle place elle occupe symboliquement. Dans les premiers mois de 2006, donc juste après les émeutes de l'automne 2005, j'ai été contacté par le bureau d'études et recherches de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou pour intervenir dans une table ronde au Salon du Livre de Paris à propos des bibliothèques qui avaient été incendiées, on me disait, courrier pendant les émeutes de cet automne. Je venais de publier un article que j'avais écrit pendant que les émeutes avaient lieu, et la personne qui m'a contacté imaginait que je savais quelque chose des bibliothèques incendiées. Et ma réponse a été, de quelles bibliothèques incendiées parlez-vous? Parce que je ne savais même pas que des bibliothèques avaient été incendiées. Et donc la personne m'a envoyé une liste établie par la direction du livre de 23 bibliothèques incendiées pendant les émeutes de 2005. Comme je ne savais rien d'autre à propos des bibliothèques que m'en servir, je suis allé parler des émeutes. Et on en a discuté avec des tas de professionnels qui étaient venus écouter cette table ronde et qui étaient très intéressés à la question. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait une immense et une importante discussion, en tout cas un débat important au sein de la profession des bibliothèques publiques territoriales sur qu'est-ce que ça signifiait ces bibliothèques incendiées, qu'est-ce que ça voulait dire. Et j'ai moi-même après eu accès à ces débats, à ces discussions qui avaient lieu pour la plupart dans les lieux de travail, mais qui avaient lieu aussi dans certains lieux d'échange, comme la liste Biblio.fr. C'était, de tout point de vue, un fait qui laissait dans la perplexité et dont je continue à avoir du mal après 8 ans de travail pratiquement et 6 années d'enquête empirique, où j'ai fait toutes sortes de choses que nous faisons nous autres les sociologues, quand nous faisons un travail de type ethnographique ou une enquête, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, il y a une prise de conscience qui commence à se faire, et jusqu'où, du fait que des bibliothèques publiques sont intentionnellement incendiées. Et je pèse mes mots quand je dis qu'elles sont intentionnellement incendiées. Dans le cadre des émeutes de cet automne, qui opposent une fraction des classes populaires au gouvernement de l'époque, à son ministre de l'Intérieur, à la police, à l'État, on ne sait pas trop. Et le débat qui s'ensuit, dont je parlais à l'instant. Des bibliothèques publiques sont incendiées dans le cadre d'une révolte sociale, d'une protestation, d'un conflit opposant le gouvernement et une partie de la population. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter, et c'est difficile à y donner un sens, à accueillir ces événements. Deux jeunes poursuivis par la police meurent dans un quartier de la périphérie de la capitale. Quel lien entre ces faits et les bibliothèques? Pourquoi brûler des bibliothèques? Les réponses à ces premières questions ne vont pas de soi, et Nous comprenons immédiatement que d'autres questions se posent derrière celle-ci. C'est plutôt de ces autres questions que je vais parler. Mais en tout cas, je décide à ce moment-là de rentrer dans l'événement, de l'accueillir sous la forme des questions pour ouvrir une enquête. Se présente à moi un univers des significations possibles derrière des faits non revendiqués. Aucun acteur collectif ni individuel ne revendique les attaques aux bibliothèques. Et ça, c'est un premier inconvénient à moi qui se présente à moi. Et cet univers de signification, en principe caché, est aussi vaste que complexe. Imaginez-vous, nous ne sommes même pas parvenus à l'heure actuelle à stabiliser une compréhension de ce que signifie ce qu'on appelle les émeutes des quartiers. On est loin encore de savoir ce que signifient ces incendies, et je le dis après 8 ans de travail et un demi-millier de pages écrites sur la question. Il y a un premier obstacle qui se présente, qui s'adresse aussitôt qu'on veut commencer à tenter de comprendre, et cet obstacle est donné par le caractère absolument inacceptable des faits qui empêchent toute quête de compréhension. Tant les incendies sont considérés aberrants que les seules discussions que j'ai pu observer et auxquelles j'ai été confronté tournent autour d'une question morale qui divise les uns face aux autres, justifiée ou injustifiée qu'une bibliothèque soit prise par cible. Mais pour dire la vérité, nous ne sommes même pas sûrs, au début, de la caractérisation de ces faits. Y a-t-il vraiment une intention d'incendier une bibliothèque? 23 bibliothèques dans les cadres de cet automne, 200 quartiers qui s'étaient soulevés de cette manière-là. Ce n'est même pas sûr, car dans le cadre d'une émeute, d'une révolte généralisée, beaucoup de choses prennent le feu. Et donc, ce n'est même pas sûr que les bibliothèques soient ciblées en tant que telles. C'est la première question qu'on se pose. Mais malheureusement pour vous et pour moi, peu de temps après, les faits seront incontestables. Des bibliothèques sont intentionnellement incendiées, ciblées, choisies. Les attaquer nécessite d'une certaine préparation et coordination préalable. Il faut accueillir les faits en ce qu'ils sont, en groupe de ceux qui sont censés être les bénéficiaires de l'institution, d'une politique culturelle, d'une politique sociale. Ces bénéficiaires, ou ceux qui sont censés être les bénéficiaires, prennent la bibliothèque pour cible et ils mettent le feu. Ils y mettent le feu. Nous savons maintenant que plus de 30 bibliothèques ont été incendiées en 2005 et j'ai pu recenser, non pas 67, comme dans la petite publicité qui vous est distribuée, mais 70 cas des bibliothèques incendiées entre 1996 et aujourd'hui. Et il n'y a pas eu une erreur de l'éditeur, c'est que entre le moment où il a imprimé ou pris les informations que je lui avais données et aujourd'hui, il y en a eu 3 cas supplémentaires. Donc, les incendies des bibliothèques excèdent le cas ou les événements de 2005. Est-ce que les incendies, première question, est-ce que les incendies ont toujours lieu dans le cadre d'une émeute? Oui, il y a une association presque parfaite entre les deux types d'événements. Généralement, oui. Les incendies des bibliothèques n'avaient pas lieu avant qu'en France on connaisse ce type de révolte populaire. Et donc, par le type d'action qui les caractérise, la modalité, mais aussi les lieux où ça se passe, elles sont intimement associées à ce type de révolte. Il est nécessaire donc de prendre le cas des bibliothèques incendiées pour re-questionner, pour reposer des questions sur ce que c'est qu'une émeute de quartier. Sur la signification de ce type de révolte en France, sur son historicité, sur son cadre et sur ce qui peut compromettre une institution comme la bibliothèque dans ce type de protestation collective. Pourquoi les bibliothèques se trouvent prises dans ce tourbillon, dans ces mobilisations? Il y a un premier point donc qui est le fait que l'historicité des émeutes depuis 1979 et celle des incendies coïncident. Puis il y a d'autres caractéristiques qui nous intéressent. Premièrement, il y a un segment, une fraction assez particulière des classes populaires qui se mobilisent de cette manière-là. Par exemple, ce n'est pas le fait d'une classe ouvrière. Pas parce que ce ne soient pas des travailleurs, il y a des travailleurs parmi les gens qui se révoltent, mais parce que le type de conflit qui va provoquer l'émeute, qui est provoqué par l'émeute, autour duquel ce que nous appelons les émeutes tournent, n'est pas un conflit classique travail capital, comme dirait un sociologue, ou travail patron. Hein, ce n'est pas une opposition entre deux agents sociaux, c'est une institution entre une partie de la population et les institutions. C'est une question qui est beaucoup plus marquée par une affaire directement politique. L'État est directement concerné dans la conflictualité qui nous intéresse. Le monde institutionnel, ce que nous appelons le service public, et donc derrière les professionnels, etc. Et évidemment, notre système politique. Le conflit au sein duquel éclate la révolte, presque toujours, suite à la mort d'un habitant de l'un de ces quartiers, dans le cadre d'un conflit avec la police, c'est un conflit qui va opposer les habitants aux institutions et au système politique institué, la police, l'école, les politiques sociales, l'habitat social, les allocations. Et derrière ces institutions, il y a l'État. Et derrière l'État et les institutions, il y a des agents, des individus, qui sont perçus comme des fonctionnaires, hein, pour aller vite, même s'ils ne le sont pas dans beaucoup de cas. Et ces agents sont aux côtés des autorités et des hommes politiques. Et donc, la révolte provoque une rupture, ou l'actualise, vient dire cette rupture entre les habitants, une partie des habitants, certains habitants, et cet autre univers, à la fois institutionnel et social. Et les habitants résultent en sorte, après le fait, eux aussi qualifiés d'une certaine manière. Et donc on dira tout de suite, ce n'est pas tous les habitants. Et on commencera à réqualifier et à construire un espèce de magma, à produire des catégorisations qui tournent toujours autour d'un segment ou d'un groupe relativement restreint des signifiants. Ce sont des jeunes, ce sont des jeunes issus de l'immigration ou de la colonisation, ce sont des noirs, des arabes, des précaires, des chômeurs, des gens peu diplômés, des pauvres. On commence à caractériser, à nommer, hein, les classes populaires d'une certaine manière. Et de l'autre côté, donc de la frontière, du conflit, ces institutions, ces agents dont j'ai parlé. Les bibliothécaires et les bibliothèques sont de ce côté-ci de la frontière. Et l'incendie vient actualiser cette opposition. Et là, il y a un premier élément de représentation qui n'est pas nécessairement préalable à l'attaque à la bibliothèque, mais sur lequel l'attaque à la bibliothèque vient tenter d'agir. Il y a une ambiguïté, hein, nous allons parler ensuite des ambiguïtés. Donc, cet incendie, pardon, cette attaque à la bibliothèque, qui est en principe sans parole, parce qu'il n'y a pas une proclamation, une revendication explicite. Cependant, cet acte, qui avait déjà un premier effet de discours, faire parler aux gens sur qu'est-ce que c'est que ces incendies, qu'est-ce qui se passe, etc., a un deuxième effet discursif, ou politique, si vous voulez, provoqué par l'attaque, qui semble nous dire quelque chose de cet ordre-là. N'essayez pas de nous convaincre que vous êtes de notre côté, vous êtes des leurs. Si ce n'est pas comme ça, dès lors, c'est-à-dire du côté de la police, du côté de l'État, du côté des hommes politiques. Si j'avais dit cette conférence il y a 50 ans, j'aurais dit du côté du système. Mais les jeunes ne le pensent pas comme ça non plus. Si ce n'est pas vrai, si vous n'êtes pas de leur côté, faites preuve du contraire. Condamnez la police, condamnez l'État, condamnez les classes dirigeantes, dénoncez les inégalités et les discriminations dont nous sommes l'objet. Indépendamment de cette hypothèse que je fais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un premier enseignement, un effet de clarification provoqué par l'incendie, c'est que les bibliothèques dans ces quartiers, dans ces cités, dans ces quartiers d'habitat social, ces grands ensembles, ces HLM, des grandes métropoles, pas besoin de donner beaucoup plus de détails pour que vous compreniez, c'est là où ont toujours lieu les incendies des bibliothèques. Les incendies des bibliothèques, dans les 70 que j'ai recensés, n'ont jamais lieu ailleurs, hein, c'est toujours dans ce type de quartier. La bibliothèque, dans ce cas-là, se situe dans un espace conflictuel qui l'excède largement, mais dont elle fait partie. Et les conflits auxquels la bibliothèque est confrontée et auxquels elle se doit de penser excèdent la question de la lecture ou de pas lecture. Excèdent la question pour laquelle ou sur laquelle la plupart des professionnels de la lecture se préparent. Les questions qu'ils savent affronter, pour lesquelles ils sont les mieux armés, même si cet univers du rapport des classes populaires à la lecture est un univers profondément déstabilisé, qui évolue et qui n'est pas facile. Mais l'ordre des conflits dans lequel la bibliothèque se trouve prise est un ordre de conflit beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Mais ce serait une erreur dramatique, je crois, que de croire que les bibliothèques n'ont rien à voir avec ces autres conflits. Que ça les excède, cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas dedans. Et d'autant plus que les bibliothèques, en réalité, et les bibliothécaires, sont acteurs au sein de ces conflits, agissent dans ces conflits, à commencer par le fait qu'elles ont la volonté d'agir à proximité, dans ce territoire, au milieu de cet univers conflictuel. Parmi les 70 bibliothèques incendiées que nous avons recensées, et parmi tous ceux, un nombre beaucoup plus restreint, vous imaginez bien, sur lesquels j'ai pu enquêter, investiguer, faire des observations, des entretiens, les décrire en détail, dans leur historicité, savoir comment ça s'est passé. Certains n'ont pas eu lieu dans le cadre d'une émeute généralisée. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, certains nombres de cas, l'attaque est faite sur la bibliothèque, exclusivement un point, et c'est tout. Il n'y a pas une voiture brûlée à côté, il n'y a pas eu un affrontement avec la police, il n'y a pas eu un conflit qui précédait la bibliothèque, il n'y a pas une école qui a brûlé à côté. Hein? La bibliothèque est ciblée et le fait commence et finit là, en principe. Dans le sens où ce n'est pas, bon voilà, tout le quartier qui est dans l'émotion et puis la bibliothèque part avec. C'est-à-dire que c'est ce qui nous fait penser que les incendies ne peuvent pas, ou en tout cas pas toujours, être classés du côté d'un effet pervers, d'un excès, d'un dommage collatéral, d'un conflit entre la police et les jeunes de banlieue. Ou en tout cas que les incendies des bibliothèques, on ne peut pas se contenter de se dire « Ah oui, c'est la crise des banlieues, et donc voilà, de temps en temps, il y a une bibliothèque qui brûle. » Mais il y a d'autres questions qu'il faut se poser. Il y a un détail qui est un détail extrêmement important. Comme vous le savez tous, les incendies des bibliothèques ne sont pas chose nouvelle. Mais ces incendies des bibliothèques sont une chose relativement rare. En tout cas, ça fait partie de nos exceptions culturelles, parce qu'ils sont rares ailleurs, dans le sens où ces bibliothèques ne constituent pas des autodafés. Les bibliothèques ne sont pas incendiées parce que, pour des raisons religieuses, idéologiques, politiques, dans une volonté de censure de la pensée de l'autre. Ce n'est pas le contenu des livres qui provoque l'opposition ou l'attaque. L'incendie de la bibliothèque doit être inscrit dans une économie d'échanges conflictuels entre la bibliothèque et le quartier, entre les institutions et les classes populaires, entre la parole écrite et les classes populaires. Une économie d'échanges qui montre une réalité conflictuelle beaucoup plus vaste et beaucoup moins spectaculaire. Il n'y a pas que l'émeute, le jour où elle a lieu, ou l'incendie, ou le caillassage. Et je commence déjà à descendre dans la gradation. Il y a les vitres cassées, les collections, les conflits avec les bibliothécaires, tout un univers conflictuel, diffus, capillaire, parfois quotidien, avec lequel beaucoup de bibliothécaires dans beaucoup de bibliothèques sont confrontés de manière plus ou moins banale. Et cette économie d'échange, cette économie conflictuelle entre l'institution et sa population va nous donner beaucoup de clés de compréhension de l'acte plus spectaculaire de l'incendie qu'à un moment donné on a envie d'oublier et duquel il faut effectivement retirer le regard. Je reviens un instant et après je m'arrêterai là sur les effets des incendies, ce que les incendies nous disent. Les incendies réqualifient les bibliothèques ou tentent de le faire. Les incendies vont agir sur un certain nombre d'ambiguïtés qui caractérisent les bibliothèques des quartiers dans beaucoup de cas. Pas principalement parce que les bibliothèques, dans leur action ou en tant que telles, soient ambiguës, mais parce que la place qu'elles occupent dans cet univers conflictuel les rend ambiguës aux yeux de la population qu'elles sont censées desservir. Après l'incendie, après une attaque, après un caillassage, on se pose la question de qu'est-ce qui a été attaqué, qu'est-ce qui a été ciblé. Je viens de dire, ce n'est pas le contenu des livres, par exemple. J'écarte déjà une hypothèse. Eh bien, il y a une chose qui saute aux yeux, si je peux dire, c'est que la bibliothèque, au moment où elle est attaquée, devient une institution publique. L'incendie, l'attaque, va rapprocher la bibliothèque de l'État, Mais je ne dis pas ça pour contenter nos angoisses et dire oui, bon, c'est l'autorité qui est ciblée, c'est l'État, donc je ne m'intéresse pas, je continue à faire mon travail de promotion de la lecture, je suis tranquille parce que ce n'est pas moi, c'est l'État qui est derrière moi et je suis un représentant de l'État, mais bon, j'y peux rien. Non, je pense qu'il faut prendre les choses autrement. Ce rapprochement de la bibliothèque avec l'État, mais aussi avec d'autres institutions comme l'école ou la police, doit nous faire penser qu'à ce moment-là, la bibliothèque est éloignée d'autres hypothèses qui doivent au moins nous servir comme étalon, comme point de repère, comme miroir où peuvent être regardées les bibliothèques d'aujourd'hui, nos bibliothèques. Par exemple, la bibliothèque s'éloigne à ce moment-là, au moment où elle est attaquée, de la tradition des bibliothèques populaires, du bibliothécaire comme un militant. Et le bibliothécaire se rapproche et est renvoyé vers sa place de professionnel et d'agent de la fonction publique. Je ne dis pas ça pour dire qu'il faut fermer toutes les bibliothèques municipales et faire que des bibliothèques associatives, rassurez-vous, mais pour nous donner un point de réflexion. Qu'est-ce que dans nos actions va dans un sens ou dans l'autre? Ce n'est pas des choses à penser dans l'absolu. Les bibliothèques populaires ont une très vieille tradition en France et elles continuent à exister. Elles sont moins importantes en France aujourd'hui, mais elles continuent à exister dans beaucoup d'autres pays dans le monde et ça peut nous amener à y penser. Par exemple, quand je vais parler, j'ai été invité à parler de ça en Amérique latine, ce qui est souvent le cas. Les militants des bibliothèques, quand je leur dis qu'en France, il y a eu des incendies des bibliothèques, ils s'ouvrent les yeux comme ça, ils comprennent strictement rien, parce que pour eux, une bibliothèque, c'est une institution relativement pauvre, menée à bras-le-corps par des gens qui ne gagnent pas de l'argent, qui n'ont pas un sou pour faire ce qu'ils ont à faire. Et donc, la probabilité que cette institution, si tant que ça peut être pensé comme une institution, soit incendiée est nulle. Et effectivement, il n'y a pas de bibliothèques incendiées dans ce contexte-là. L'une des choses qui protège une bibliothèque d'être incendiée, c'est que l'est le projet de ses propres bénéficiaires qui sont militants. Et l'une des choses qui les rend vulnérables, c'est le fait qu'elles sont intégrées à notre système institutionnel, avec tous les avantages qui viennent derrière, évidemment. Deuxième chose, c'est que la bibliothèque, au moment où elle est prise par cible, elle se rapproche, elle devient, elle est attaquée en tant que une institution de l'écrit, je serai un peu redondant, de l'écrit institutionnalisé. Ce n'est pas seulement l'écrit de l'école, c'est l'écrit des institutions. L'incendie rapproche la bibliothèque de l'école, mais aussi de la forme écrite qui caractérise toutes les institutions avec lesquelles ses habitants sont en conflit quotidien pour l'accès à des ressources qui leur sont vitaux. Les allocations, le logement, toutes sortes de problèmes passent pour beaucoup par un rapport écrit. Et les institutions prennent leurs décisions à travers l'écrit. Et cet écrit, cette lettre que vous recevez en disant que vous devez tant, que vous n'avez pas eu accès à telle allocation, cette lettre qu'il faut écrire, ce formulaire qu'il faut remplir, il y a là un écrit administratif qui est une source de conflits et parfois de souffrances extraordinaire pour beaucoup d'individus et des familles. Et la bibliothèque est renvoyée vers cette forme de l'écrit quand elle est prise par cible. Troisièmement, quand la bibliothèque est attaquée, est prise par cible, elle est vue, elle est représentée, elle est imagée comme un allié, comme une institution alliée, comme un instrument, comme un temple aussi, précieux et relevant un petit peu du sacré, de certains groupes sociaux et de certaines catégories sociales. C'est leur bibliothèque. On va dire, on vous brûle la bibliothèque. Donc la bibliothèque apparaît associée à la réussite scolaire, à la promotion sociale, à la réussite sociale, à certaines formes de sociabilité où le capital culturel compte, à la frontière que certaines catégories tracent à travers la valorisation du livre, de la lecture, de l'écriture et des formes de comportement qui leur sont associées. Ces pratiques sociales et culturelles associées à la bibliothèque, ces goûts. J'allais un jour. Je vais commencer à vous raconter quelques anecdotes parce que je me retiens depuis tout à l'heure. J'allais un jour vers une bibliothèque dans un quartier dans la périphérie nord de Paris. C'était une bibliothèque horrible, au bas d'une bar. qui a été après fermé et au profit d'une nouvelle structure. Bon. Et, mais c'était vraiment moche. Les grilles avaient été soudées, ils pouvaient plus le rideau métallique ne pouvait plus se soulever parce qu'il y avait eu des vols d'ordinateurs. Bon. Et quand j'allais vers ce quartier, je laissais le métro et je marchais vraiment longtemps. Bon. Et un jour, je cherchais où manger et il n'y avait rien où je pouvais manger. Je suis allé dans un McDonald's qui était la seule chose où il y avait de la nourriture. Et je suis rentré pour manger et il était évident que j'étais là totalement étranger à cet univers. Les clients, les serveurs, tout le monde se ressemblait sauf moi. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était écrit dans les menus. J'étais complètement ignorant. Donc, j'ai mangé ce que j'ai pu. Content d'avoir le ventre plein, je suis allé à la bibliothèque. Et je suis rentré dans cette bibliothèque très moche. Et quand je suis rentré dans cette bibliothèque très moche, quel plaisir! Un soulagement immense. Parce que là, je me sentais chez moi. Là, j'étais content. Il y avait les mêmes livres que ceux que j'achète à mes enfants. Il y avait les affiches des chanteurs que j'aime écouter. Les compagnies de théâtre, je les connaissais tous. Là, j'étais chez moi. Le salon de la maison et la bibliothèque, c'était la même chose. Il est évident qu'il y a là quelque chose qui cloche. Et quand le conflit émerge, eh bien, cette frontière sociale, cette séparation, cette distance est actualisée. Donc la bibliothèque résulte réqualifiée parce qu'elle porte en elle des ambiguïtés. Cette enquête a ouvert à tout un éventail de questions que je n'exposerai pas aujourd'hui, parmi lesquelles se trouve le statut de la bibliothèque comme projet politique, parmi lesquelles se trouve le rapport des bibliothèques à l'écrit et le rapport des classes populaires à la parole écrite. J'en ai effleuré quelques éléments, mais je ne m'y attarderai plus. Je vais vous faire part d'un petit nombre, pour finir, d'un petit nombre de questions relatives à la place des bibliothèques dans la ville et dans les quartiers. Et pour ça, donc je vais vous dire deux ou trois anecdotes. Un jour, dans un autre quartier, d'une autre ville, je vais interviewer un jeune que je savais était plus ou moins proche, plus ou moins loin, faisait partie du groupe de ceux qui, très certainement, avaient, de manière répétée, caillassé la bibliothèque et essayé de l'incendier en 2005. En jetant deux cocktails Molotov dedans. Donc j'avais un rendez-vous avec ce jeune homme. C'était l'hiver, on se retrouve sur le trottoir. Et moi, quand je venais le voir, je me disais, où est-ce que je vais faire l'entretien? Quand j'arrive, il me pose la question, on va où? Et je dis, n'importe où on puisse parler tranquillement. Et il me dit, on va à la bibliothèque. Il tourne sur ses talons et il file vers la bibliothèque, on n'était pas très loin. Il pousse les portes. La bibliothécaire qui était à l'accueil ouvre les yeux comme ça, avec une peur blanche. Mais quand elle me voit derrière quelques mètres, parce que je traînais, elle se dit, bon, ce sont les histoires du sociologue, laissons faire. Donc elle replonge dans sa lecture et nous rentrons dans la salle. Il se met à table. Le temps que j'enlève, quand il file vers la bibliothèque, il a vu la surprise dans mon visage et il me dit, bah oui, on est chez moi ici, c'est ma bibliothèque. Donc on y va vers la bibliothèque. On arrive à la bibliothèque et le temps que j'enlève mon manteau, il repart dans les collections, il revient avec deux livres. Un livre pour lui, un livre pour moi, qu'il ouvre et il dit « Il faut faire comme tout le monde ici ». Alors, cette anecdote, un peu, qui peut être banale à certains égards, dit quelque chose de très important. C'est sa bibliothèque ou ce n'est pas sa bibliothèque? Il ne le sait pas lui-même. Il dit que c'est son quartier et qu'en conséquence, c'est sa bibliothèque, donc il peut y tenir un entretien. C'est un équipement public auquel il a le droit, il paraît. Il se sent citoyen de son lieu. Et moi qui avais beaucoup travaillé avec ces bibliothécaires, eux, les bibliothécaires, disaient tout le temps, il faut que les gens s'approprient de la bibliothèque, que ce soit la leur. Bon, donc il faisait ce que les bibliothèques voulaient. Mais une fois qu'il était dedans, il rentrait dans un espace normé, codé, et ces normes et ces codes ne lui appartenaient pas. Donc il ne savait pas vraiment ce qu'il fallait faire. Déjà, il était en face d'un bizarre sociologue, pour savoir ce que c'est. Mais c'est clair que ce type-là, il est du côté de la bibliothèque. C'est plus dans cet univers-là que dans le mien. Bon, la question qui se pose et qui est une question fondamentale, c'est est-ce que cette bibliothèque est dans le quartier ou elle est à l'extérieur du quartier? Et là, ce jeu de proximité et de distance doit interroger la question de la proximité physique, implanter des institutions dans un territoire, et la question de la proximité sociale et culturelle. Et là, les réponses sont extrêmement difficiles parce que nous ne sommes pas certains de vouloir être culturellement proches de cet univers. Je sais bien qu'il y a tout un débat au sein de la profession. Nous ne savons pas si nous devons proposer les choses qui leur plaisent pour qu'ils se sentent comme chez eux, mais qu'ils ne trouvent finalement rien d'autre que ce qu'ils ont déjà, le McDonald's, ou si nous devons leur proposer autre chose parce que c'est dans l'honneur d'une république, d'une démocratie et d'un État que de proposer aux classes populaires ce qu'ils n'ont pas lorsqu'ils sont soumis à la pauvreté, au chômage, à l'action des industries culturelles, etc. On peut raisonner ça de plusieurs manières, mais il y a là tout un problème. Ce problème se pose aux bibliothécaires, mais se pose aux habitants aussi. Et ce problème ne fait pas uniquement que diviser les habitants entre ceux qui aiment la bibliothèque et ceux qui ne l'aiment pas. Souvent, ça se pose à l'intérieur des mêmes individus qui se sentent tantôt proches, tantôt éloignés, qui ne savent pas s'ils sont dedans ou s'ils sont dehors, si la bibliothèque c'est pour leurs enfants ou si c'est pour eux, si c'est pour certains membres de la famille mais pas pour d'autres, si c'est pour les jeunes garçons, pour les jeunes filles mais pas pour les garçons, etc. Donc c'est une question extrêmement complexe et parmi les actions de la bibliothèque, il y a ce conflit. Mais la bibliothèque agit au sein de ce conflit, est un acteur. Donc elle se prend parfois des paf dans la figure parce qu'elle devient un acteur et tout ce qui agit entre en conflit. Une autre anecdote. À Villiers-le-Bel, vous vous rappelez l'incendie de la bibliothèque de Villiers-le-Bel? De celui-là, on en a beaucoup parlé. De tous les autres, on n'en parle jamais, mais de celui-là, on en a beaucoup parlé. Bon, j'avais été amené dans un colloque une année après, dans la ville, pour raconter un peu mes histoires de bibliothèque que je commençais déjà à explorer. Et j'ai remarqué tout de suite, c'était une grande salle, plein de professionnels, de responsables politiques, etc. Mais il y avait tout, sauf les habitants du quartier. Donc j'étais un peu gêné qu'on parle entre soi et que justement ceux que je trouvais qui étaient de l'autre côté n'étaient pas là. Et donc ça confirmait un peu mes hypothèses du fait qu'on était tous toujours comme là maintenant entre soi, mais jamais avec les autres. Et, bon, et donc je suis allé voir parce qu'ils avaient refait une bibliothèque Aimé Césaire. Aimé Césaire, qui ne portait pas le nom de l'ancienne, mais provisoire comme ça. Donc j'ai parlé avec le bibliothécaire. Et le bibliothécaire, comment ça va? Bah, ça va bien, maintenant ça va, il n'y a pas de problème. Bon, c'est vrai, tous les jours à l'ouverture, il y a les jeunes qui viennent. Ils viennent, ils font le souk, ils mettent les livres par terre, ils courent, ils font du bruit. Ah oui, mais pourquoi ils font ça? Bah, c'est du marquage du territoire. Vous savez, c'est du marquage du territoire. Ils font ça, mais c'est pas méchant, après ils s'en vont une demi-heure après, et on peut travailler tranquille. Alors pourquoi il y aurait besoin de marquer son territoire? Si la bibliothèque est dans le quartier, ça veut dire que c'est pas le quartier. C'est le quartier ou c'est pas le quartier? On ne sait pas si c'est le quartier ou si c'est pas le quartier. Et si c'est le quartier, une question politique fondamentale se pose. Si c'est une bibliothèque du quartier, qui fait les normes qui gouvernent l'institution? Parce que les normes, elles ne flottent pas dans le ciel des idées comme voulait Platon. Il y a des acteurs qui les font, les normes. Et il y en a d'autres qui les acceptent, ne les acceptent pas, les subissent, ne les subissent pas, en profitent, en profitent pas. Et donc, est-ce que ces individus sont acteurs des normes de l'espace où ils vivent? Une anecdote que j'aime pas trop raconter parce qu'elle biaise un peu les choses, ou elle tente à faire croire que ça se passe de ce côté-là, mais c'est pas. C'est dans le cadre de ce que je viens vous dire. Dans une bibliothèque, un jour, ça je ne l'ai pas vu, mais on me l'a raconté, un habitant du quartier, c'est toujours un jeune, il a 30 ans ou il en a 15, c'est toujours un jeune. Donc un jeune du quartier, un garçon, c'est toujours un garçon aussi. Parfois c'est les filles, mais c'est souvent les garçons. Bon, rentre dans la bibliothèque, il dit salam alaikum, c'était la fin du ramadan. Salam alaikum, et la bibliothécaire, gentiment, lui répond, on ne parle pas comme ça ici, on est en France. Donc le jeune en question repart, il revient après avec un groupe de copains et ils mettent tous les livres par terre. Bon, et ils s'en vont. Alors, le conflit en soi, ça ne m'intéresse pas trop cette fois-ci. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que la bibliothécaire, qui le regrettait parce que c'était elle-même qui m'a raconté, a laissé échapper. Parce que ce n'était pas une femme méchante, elle. Et ça lui a échappé, elle a dit comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? On ne parle pas comme ça ici, on est en France. C'est une question compliquée parce que on est où en France? Dans la bibliothèque, on est en France, et dans la rue, on peut parler comme on veut. Mais la bibliothèque et la rue, ce sont deux espaces nationaux différents. Chez soi, on n'est pas en France, mais à la bibliothèque, on est en France. C'est tout le territoire national et partout. On est en France, donc il ne faut pas dire la paix soit avec vous en arabe, parce qu'on est en France. C'est très compliqué. Et là encore, revient cette histoire des proximités et des distances qui est à peu près la même. Donc, il y a un enjeu fondamental de savoir, pour savoir si la bibliothèque se trouve dans le territoire d'un groupe social, dans l'espace public. De quel espace public s'agit-il et comment peut-on habiter cet espace public? Et si c'est un espace public normé, parce que la bibliothèque est une institution, ce n'est pas non plus la plage, si c'est un espace public gouverné par des normes, qui fait les normes et qui les fait respecter? L'un des choses que j'ai pu observer à travers les incendies des bibliothèques et toute cette conflictualité, c'est, en discutant avec les professionnels, une chose qui est relativement compliqué à expliquer. Je pense que, excusez-moi de parler de beaucoup parmi vous de cette manière-là, mais je pense que chez les professionnels de la lecture, chez les bibliothécaires, chez les enseignants aussi, comme moi, il y a une idéologie, hein, c'est-à-dire un ensemble de valeurs qu'on partage, qui veut, qui pense que la bibliothèque, comme d'autres institutions, mais plus la bibliothèque que beaucoup d'autres institutions, c'est un espace public. C'est-à-dire un espace ouvert à tous. Les bibliothèques, je parle de ce type de bibliothèque de quartier, etc. Bon. Et cette croyance, cette conviction, si vous voulez, que par ailleurs je partage, est une conviction qui est pour beaucoup associée à la conception que nous avons du livre, avec laquelle les bibliothécaires travaillent quand ils travaillent. C'est-à-dire qu'une bibliothèque, sauf quelques exceptions, pour en parler, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais sauf quelques limites, peut accueillir toutes sortes de livres. Et il y a une conviction supplémentaire, c'est qu'un livre est un espace public en soi. Le livre peut être lu de n'importe quelle manière. C'est ce que les bibliothécaires veulent dire quand ils disent, c'est pas vrai ce qu'ils disent, mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Ils disent, nous on est pour la lecture plaisir, on n'est pas comme les méchants enseignants qui sont dans la prescription. Hein? Et c'est vrai que nous autres, les enseignants, moi j'ai dit à mes étudiants, si vous voulez réussir, c'est tuer, et voilà la liste de choses à lire. Et en plus, je vais contrôler comment vous l'avez lu. Si vous n'avez pas bien lu, si vous me racontez des salades à propos de ce qui est marqué dans les livres, je vous mets une mauvaise note. Et donc, moi, je contrôle. Bon, les bibliothécaires, non. Ils donnent le livre et l'autre, ils l'amènent. Ils ne demandent pas comment il l'a lu, qu'est-ce qu'il a trouvé, pourquoi il l'a lu, ce que ça lui plaît, ça lui déplaît, etc. Bon. Donc, c'est à plusieurs titres un espace public ouvert. Un espace public ouvert. La gratuité joue beaucoup là-dedans. Le fait que c'est pour toute catégorie, que c'est pour la diversité, hein, le cosmopolitisme. Bon, il y a des tas de choses. Mais cette idéologie, je reviens à mon terme, hein, qui nous appartient, peut être une autre forme d'obstruction à la compréhension de la réalité conflictive dans laquelle se situent les bibliothèques. Et c'est probablement la source principale de notre perplexité. Si nous sommes un espace ouvert à tous, comment on peut être la cible d'attaque? Ce n'est pas possible. Ce sont des abrutis ou ce sont des nihilistes, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous ouvrons un service public ouvert à tous et ces idiots le brûlent. Il faut un instant mettre entre parenthèses ou accepter que ce que nous prenons pour un espace public est mis en question et que ce n'est peut-être pas ce que nous pensons ou ce que nous voudrions que ce soit. Pas nécessairement parce que les bibliothécaires seraient obtus, agiraient mal ou auraient des mauvaises réponses comme cette dame qui a eu le malheur de dire « on est en France ici, on ne parle pas comme ça bon. ». La bibliothèque, quand elle est incendiée, est renvoyée vers l'institution d'un groupe social particulier. Il y a une ambiguïté qui est mise en lumière par l'incendie qui tente de nous dire « attention, vous êtes en train de faire quelque chose pour un groupe social ». Administré par une certaine catégorie sociale, qui s'adresse à une certaine catégorie sociale et qui, du coup, laisse dehors des tas d'individus, des familles, des populations. Pas parce qu'elles n'y auraient pas accès, mais parce qu'elles commencent à être en dehors de l'univers social dans lequel se situe la bibliothèque. Et là, il y a une difficulté majeure. Le fameux faible taux d'inscription dans les bibliothèques de ce type de quartier, par exemple. Il y a plusieurs manières de le prendre. L'une, c'est qu'il faudrait améliorer ça, et donc il faut étendre la lecture comme une tache d'huile qui s'étend sur un papier et qui, petit à petit, devrait atteindre tout le monde. Ou on peut prendre conscience qu'il y a des tas de lignes de clivage qui rendent difficile cette progression. Et à ce moment-là, revient la question de savoir, est-ce que vous êtes avec nous ou est-ce que vous êtes de leur côté? C'est la parole que j'entends. Est-ce que vous êtes de notre côté ou de leur? Alors, la question, c'est que, est-ce que la bibliothèque souhaite être du côté de ces segments des classes populaires ou pas? On ne le sait pas. Deux petites formes de représentation ou localisation de la bibliothèque dans l'univers des classes populaires. Donc là, dans ce que je viens de dire, il y a, si vous voulez, vous pouvez le penser, est-ce que la bibliothèque se situe dans le territoire des classes populaires, auquel cas elle doit prendre parti, ou est-ce qu'elle est un espace public, auquel cas elle risque de se voir comme une implantation en terre étrangère? Pas par tout le monde, mais par certains ou par beaucoup, ça dépend. Et dans des moments de conflit, cette opposition risque de devenir plus aiguë. Une autre dernière élément que je voulais partager aujourd'hui avec vous tourne autour des mots et des noms. Et là, c'est un peu plus peut-être sympa. Quand j'ai commencé à enquêter sur cette histoire de bibliothèque, le premier accueil que j'ai eu, la première proposition pour, comme nous disons, faire du terrain, c'est-à-dire une bibliothèque qui nous a ouvert les portes, qui nous a dit, on vous amène dans le quartier, on vous présente tout, il n'y a pas de problème, venez, nous on veut comprendre, on ne sait pas ce qui arrive et on est bien prêt à vous ouvrir les portes. C'était à Saint-Denis. Et donc après, j'ai longtemps, avec certains étudiants aussi, enquêté dans le réseau de la lecture publique des plaines communes qui regroupe maintenant 9 villes de la banlieue nord de Paris. Et ce réseau qui a mène une politique très de modernisation, de mise en réseau très proactive, je dirais, s'est mise aussi à construire des bibliothèques, de nouveaux équipements, ça faisait longtemps que ça ne se produisait pas parce que les municipalités sont très appauvries, donc il a fallu la mise dans la communauté d'agglomération pour qu'ils aient les sous. Et donc, il y avait une bibliothèque Gulliver, toute neuve. C'est celle-ci qui a eu 2 cocktails Molotov. Et après, il y a eu une bibliothèque Ulysse. Et après, une bibliothèque Aladdin. Et à un moment donné, bon, après, j'ai commencé à aller dans les vieilles bibliothèques aussi. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Parce que les anciennes bibliothèques municipales s'appelaient Louis Aragon, Elsa Triolet, Jules Vallès, Georges Brassens, Salvador Allende, ou d'autres choses de cet univers-là, comme des collèges ou des centres culturels, ou bon, je sais pas, la bibliothèque Jules Vallès était en face du collège Maurice Thorez, par exemple. Bon. Et donc, mais à un moment donné, je me suis demandé, et pourquoi avoir changé Jules Vallès contre Gulliver? Est-ce que ça a quelque chose, est-ce que c'est purement anecdotique ou est-ce qu'il y a quelque chose qui compte là-dedans? J'ai demandé, évidemment, j'ai posé la question. La réponse qu'on m'a donnée, c'était, bon, on en avait marre de tous ces, bon, Romain Rolland, je ne sais pas, c'était. Et il fallait aller vers autre chose, plus ouverte, plus bon. Et donc, je commençais à faire un travail interprétatif de ce qui s'est passé. Il y avait plusieurs choses qu'on pouvait observer. D'une part, je trouvais que ces bibliothécaires couraient un certain risque parce que les associations entre la bibliothèque, le monde de l'enfance, ces types de bibliothèques, le monde de l'enfance et le monde féminin est important. Et donc, aller vers Gulliver, Ulysse, Aladdin, etc., ça risquait hein, d'aller dans le sens du problème plus que d'essayer de le contrer. Mais il y avait une autre chose qui sautait aux yeux pour moi. Quand un pouvoir public décide de construire une bibliothèque, qu'elle trouve les financements, qu'elle fait les opérations nécessaires pour implanter une bibliothèque. Par exemple, se placer dans le cadre d'une rénovation urbaine, démolir des tours, créer l'espace, bâtir, trouver l'argent, etc. Il y a une volonté politique de influencer, de travailler, de modifier la réalité sociale de cet univers. La bibliothèque porte en elle une volonté politique de transformation sociale. C'est-à-dire que cet espace, on pense, c'est pas pareil un quartier avec bibliothèque et sans bibliothèque. C'est pas pareil des classes populaires avec accès aux livres et à la lecture que des classes populaires sans accès aux livres et à la lecture. Donc on agit dans ce sens-là. À l'époque de Elsa Triolet, Jules Vallès et tous ses copains, la charge politique était dite, était explicite, était évidente. Et les professionnels de la lecture, les travailleurs, les fonctionnaires, les employés, les bibliothécaires, étaient placés sous cette volonté évidente et dite. Là, j'ai caricaturisé parce que ce réseau est un peu particulier dans son territoire, par son histoire politique. Et donc, c'est ce qui rend évident. Mais ce n'est pas moins vrai dans d'autres endroits. Tandis que, quel est le support politique sur lequel un bibliothécaire peut se reposer pour faire son travail lorsqu'on s'appelle Aladdin? Parce que si je m'appelle, si je, par exemple, j'ai été à la cérémonie d'ouverture de la bibliothèque Ulysse. Ça a été inauguré, entre autres, par l'actuel président de l'Assemblée nationale, Claude Bertolone. C'est pas bien qu'un sociologue fasse ce que je suis en train de faire. Mais bon, c'était comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et donc, je m'attendais, qui va être le responsable politique qui va chanter la chanson de Brassens? Je savais que ça allait être chanté. Effectivement, c'était Bertolone qui a dit « Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage », etc. Bon, et donc... Et après, il y a eu une représentation des enfants du quartier qui ont fait un bout de l'Iliade et bon, l'Odyssée. Bon. Mais à dire la vérité, pas besoin de faire une enquête sur les pratiques culturelles des Français pour savoir que la plupart de ses habitants connaissent Gulliver par Disney. Et Gulliver, Ulysse, par les dessins animés. Bon. Et donc, ce qui n'est absolument pas sûr, c'est que l'univers culturel ou ceux qui ont décidé de baptiser la bibliothèque Ulysse soit le même de ceux qui reçoivent le nom Ulysse. Pour ceux qui étaient là en train d'écouter Bertolone, ou peu importe, mais un homme de gauche, etc., Ulysse et Brassens, ça fait comme un couple, ça va ensemble, ils sont tous la chanson dans la tête. Mais pour les habitants du quartier, c'est beaucoup moins sûr que cette association soit immédiate. Donc, ce qui devient incertain dans cette évolution entre les années 60, 70 et aujourd'hui, c'est que l'univers politique dans lequel les bibliothèques se placent est aujourd'hui beaucoup plus incertain. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas d'acteurs politiques. Les bibliothèques sont des acteurs politiques qui ne peuvent pas se dire tels parce qu'elles font partie du service public et parce qu'il y a une incertitude politique qui ne sait pas trop où les placer. Et donc on cherche des noms sympas. Sympas. Mais la question que se pose, c'est à quel projet des transformations sociales, à quel projet de vivre ensemble renvoie Aladdin, Gulliver et Ulysse. C'est très intéressant de regarder les noms des bibliothèques. Très intéressant, ça en dit beaucoup, et surtout quand on les observe dans leur temporalité. Et là, ces choix des noms qui semblent plus indéterminés renvoient encore la bibliothèque du côté de l'espace public, du service public, etc. Mais le problème, c'est qu'on vous place un tel agent qui dit « Non, je ne fais rien, je suis innocent, je suis beau, je suis ouvert et je suis neutre » dans un univers conflictuel, eh bien, il risque de ne jamais accepter qu'il fait partie des conflits qui constituent la trame de l'espace où il se situe. C'est fini.
Voilà, est-ce que vous avez, comme ça, d'entrée de jeu, une première réaction à apporter au moulin?
Vous avez écarté dans votre analyse la question des contenus des livres. Je me dis quand même, tout de même, peut-être que de ce conflit où s'approprier une bibliothèque, c'est aussi, il y a aussi des contenus.
Oui, vous avez raison, et il y a une ambiguïté dans ce que je dis. Parce que je n'ai pas été probablement suffisamment précis. Quand je dis qu'on n'attaque pas le contenu des livres, ce que je veux dire, c'est qu'on n'identifie pas nécessairement une idéologie au sens où, je ne sais pas, des communistes vont s'attaquer à la littérature fasciste ou des fascistes vont s'attaquer au communisme ou des islamistes vont s'attaquer à la religion juive ou des juifs vont s'attaquer je ne sais pas quoi. Non. Ce n'est pas cet univers conflictuel-là Mais le contenu de livre apparaît, je crois, dans un enjeu très important qui ne prend pas la forme d'une idéologie, mais d'un univers culturel. Les bibliothèques, effectivement, elles ont un contenu, c'est ce que je disais. Heureusement, je dirais, en tout cas pour ce qui est de mes préférences personnelles, les bibliothèques se situent un peu aux antipodes de McDonald's. Et pourquoi ? Parce qu'elles sont une identité. Et c'est vrai que cette identité culturelle pose problème aux classes populaires. Pose problème parce que c'est un peu, comment le dire d'une manière schématique et rapide, au risque de la caricature. C'est un peu comme l'école, au sens où l'école, c'est, pour ces populations, quasiment la seule voie de salut hein, qui s'offre à elles. Bon, il faut aller à l'école et c'est très bien ainsi. Mais, en même temps, par exemple, dans ces quartiers, la plupart des quartiers du réseau de pleine commune, par exemple, 35% des personnes âgées de plus de 15 ans sortent du système scolaire sans diplôme. 35%. Je ne parle pas des gens qui sont venus en France adultes sans avoir fait des études. Je parle des personnes socialisées par notre société. Notre société laisse dans ces espaces 35 personnes de plus de 15 ans sans diplôme. Bon, c'est-à-dire que pour ces personnes-là, l'école, c'est l'institution qui, paf, ferme la porte au nez et qui, de surcroît, à un âge très peu avancé, réduit à un minimum ou une probabilité assez faible la possibilité de trouver un travail qui permette d'avoir une vie digne. Donc, l'école, ce n'est pas une chose ou l'autre, c'est les deux à la fois. C'est la voie du salut et c'est la porte qui se forme au nez. L'univers culturel de la bibliothèque est aussi dans un espace d'ambiguïté de cet ordre-là. Ce sont des trésors magnifiques, mais des trésors magnifiques qui, placés dans un contexte conflictuel d'un point de vue social et culturel, peuvent représenter une forme d'opposition, d'agressivité, d'exclusion de ce qui n'est pas à nous. Donc effectivement, il y a un contenu qui est ambigu dans le sens où il est facile de dire dans ces espaces que c'est leur bibliothèque, les livres, c'est pour eux. Un interviewé dans un quartier m'a dit une fois, ils nous mettent des bibliothèques pour nous endormir. Je me suis dit, celui-là, il sort pas du siècle des Lumières. Oui, ils nous mettent des bibliothèques pour nous endormir, pour qu'on reste à lire tranquille dans notre coin et qu'on ne se plaigne pas. Vous voyez comme on peut la voir d'une manière totalement opposée à celle que nous la voyons. Le livre, ce n'est pas quelque chose pour ouvrir la conscience critique des individus pour qu'ils aillent au combat. Ils ne perçoivent pas qu'il y a là-dedans des ouvrages leur permettant d'amorcer les combats sociaux, politiques et culturels qui sont les leurs. Il y en a un, au moins, qui pense que là, ce sont des trucs pour qu'il reste tranquille à lire. Quand on parle de la lecture plaisir, c'est vrai qu'on lui donne un peu raison. Tiens, tu es dans la merde, fais-toi plaisir. Au moins, ça va t'ouvrir l'esprit.
Bonjour. Est-ce que depuis les incendies de certaines bibliothèques, vous êtes retourné sur ces lieux ? Et est-ce que les bibliothèques, si elles ont été reconstruites, fonctionnent comme avant ? Ou est-ce qu'il y a des nouvelles stratégies ?
C'est très intéressant. Je suis allé dans ces mêmes quartiers, je suis revenu. C'est très intéressant parce que là, il y a l'expérience qui est la mienne des bibliothèques de territoriales, des annexes de quartiers, etc., c'est une expérience d'un monde qui a une volonté de se rénover, d'agir et de ne pas se contenter, disons, de ce qu'on a, qui est extraordinaire. La capacité des bibliothèques et des bibliothécaires à être dans la modernité est énorme. Donc souvent, ces épisodes sont l'occasion des remises en question et donc, en général, ça ne repart pas comme avant. On profite de l'occasion pour essayer de mettre en place un changement d'ordre différent. Mais le discours des élus locaux, des responsables, la plupart du temps, c'est le suivant. On sait que ce sont des choses qui arrivent, donc on agit vite, on reconstruit à l'identique et on continue. Cette autre position, mais il faut s'interroger jusqu'à quel point la première aussi, mais en tout cas la position des élus, de ces élus-là, qui prennent ça comme un coup, Hein, je roule en voiture, de temps en temps, je crève un pneu et bon, il faut le changer et on continue. C'est une position qui, à certains égards, peut être extrêmement dangereuse, dans le sens où elle obture les possibilités de prise de parole que l'incendie devrait susciter. Vous n'avez rien fait. C'est moins que rien. Ici, rien ne s'est passé. On reconstruit, on rachète des livres, on peint et on rouvre les portes. Et il faut faire de même qu'avec les voitures incendiées. Les municipalités ont des services. Hein. Ils passent, ils ramassent aussitôt que possible pour que ça ne se voit pas et que tout continue comme avant. C'est-à-dire que ce que ces événements qui nous déplaisent sont en train de mettre en lumière, ou en tout cas, nous devrions prendre ça comme des lumières qui s'allument, eh bien, on éteint la lumière et on continue. Donc, voilà. Il y a ces deux attitudes que j'ai observées qui sont à la fois normales, parce que c'est la volonté de ne pas se laisser abattre par une attaque et de continuer dans la conviction qu'on est en train de mener une mission qui vaut la peine d'être maintenue. Et de l'autre côté, la difficulté, c'est tellement difficile à comprendre ces histoires d'incendie qu'on s'est dit, bon, c'est pas grave, on continue. Et donc, on ne cherche pas à voir qu'est-ce qui aurait pu être à l'origine ou qu'est-ce qui pourrait constituer une porte de sortie au conflit.
Bonjour. Voilà, je me posais la question de savoir si la réponse à ce genre de problème pourrait trouver une solution dans ces nouveaux lieux dont on entend parler, qui présentent la bibliothèque au sein d'autres services sociaux. Il y a différents noms pour qualifier ça, qui ont pris naissance dans les pays du Nord, entre autres. Voilà, il y avait des articles là-dessus dans Livre Hebdo.
Je ne sais pas. Mais je ne sais pas parce que je sois hésitant, mais parce que je n'ai pas suffisamment étudié ces nouveaux espaces. Je connais un peu l'expérience anglaise, notamment. Et je connais quelques-uns. Je parlais d'une bibliothèque très moche tout à l'heure qui a été placée dans un espace culturel qui intègre des services sociaux, d'autres, bon, des tas de choses. Je ne sais pas, ouais, mais au sens, c'est pas que je sois, il n'y a aucun scepticisme dans ma réponse. Je suis ignorant, je ne sais pas trop. Ça me semble quelque chose d'intéressant, j'aimerais bien aller voir un peu. Mais il y a des milliers de bibliothèques qui marchent merveilleusement bien. Je me suis concentré dans celles où il y avait eu des problèmes, et donc voilà.
Je me pose aussi la question de la provenance du personnel, en fait. Est-ce que ça peut avoir un rôle? Parce que rarement, les gens qui travaillent dans telle bibliothèque de quartier vont être issus de ce quartier-là, etc. Et il me semble que c'est à Londres où ils recrutent localement des agents de bibliothèque, donc peut-être pas forcément aussi qualifiés, etc., mais qui recrutent plus vraiment des gens du quartier.
Il y a une... C'était l'une des premières hypothèses de travail que j'ai faites. Parce que dans les premières bibliothèques, j'ai commencé, mon travail a été comme ça, je me suis plongé dans une bibliothèque qui avait été prise par cible et essayé de comprendre une d'abord très bien, etc. Et après j'ai commencé à construire, y compris des observations plus d'ordre statistique. Et dans cette bibliothèque première dans laquelle j'ai travaillé, il n'y avait pas des gens du quartier, donc je me disais, ah c'est ça. Et d'autant plus que c'était une bibliothèque récemment ouverte et qu'il y avait eu l'un des conflits avec les habitants, c'était, les habitants avaient dit, pourquoi vous ne recrutez pas des personnels du quartier. C'est-à-dire, normalement, ils n'y voyaient pas seulement une bibliothèque, mais aussi des sources d'emploi. Et donc, ils ne comprenaient pas pourquoi les emplois n'étaient pas pour eux. Mais après, dans ce même réseau de bibliothèques, il y avait des tas de gens qui habitaient dans les mêmes quartiers dont ils travaillaient et qui étaient issus des mêmes catégories sociales. C'était les mêmes. Alors, on peut penser que non, ce n'est pas vrai. Mais en réalité, il faut regarder les choses un petit peu plus. C'est un petit peu plus fin que ça, parce que cette hypothèse suppose que ces quartiers sont des espaces homogènes. Donc, habiter dans le quartier, ça ne veut rien dire, parce que ces quartiers sont d'une extraordinaire hétérogénéité. Et l'une des choses qui divise ces espaces, c'est un clivage fondamentale entre ceux qui ont des niveaux de diplôme importants et qui ont des emplois stables et ceux qui ont des niveaux de diplôme bas et qui ont des emplois précaires et qui connaissent des périodes de chômage très prolongées. Donc ce qui est sûr, c'est que les bibliothécaires appartiennent à la catégorie de ceux qui ont un emploi stable. Mais ce problème n'est pas soluble, parce que si vous employez quelqu'un qui n'a pas un emploi stable, en quelques années, vous en faites quelqu'un qui a un emploi stable. Non, mais c'est, je vous dis ça parce que c'est très important. Combien de personnes travaillent dans une bibliothèque? 4, 5, 10, 20? Ce n'est pas pour 6, 7, 5 000 habitants. Donc la bibliothèque n'apportera pas une solution au problème du chômage. Et le conflit probablement persistera, ça se déplacera d'un individu vers l'autre. Maintenant, il est vrai que l'appartenance géographique et à l'espace du quartier n'est pas complètement anodine. Si vous faites venir des gens qui sont complètement extérieurs à cet espace, social, culturellement et par leur histoire familiale, etc., vous rendez probablement ce problème plus aigu, plus manifeste, plus évident et donc probablement source de conflits plus importants.
Oui, bonjour. Moi, je voudrais compléter un petit peu. Quand on décide de reconstruire une bibliothèque, tout va être décidé par les bibliothécaires, les architectes, les politiques. Et les gens du quartier ne sont jamais associés à qu'est-ce que vous voulez dans la bibliothèque, comment est-ce que vous la voulez, est-ce que ça pourrait être justement votre bibliothèque? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir quelque chose, une piste intéressante à associer les gens du quartier à la construction d'une bibliothèque et à la vie de la bibliothèque par la suite?
Certainement, il y a là un problème fondamental. L'un des sources du conflit se trouve là et il ne concerne pas uniquement la bibliothèque. Hein. Nous le savons, l'État français est un État qui fonctionne de manière très 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 forte à la démocratie représentative et la démocratie directe provoque des allergies importantes. Il y a des tas de mécanismes de participation qui associent les habitants actuellement, dans beaucoup d'instances, d'institutions, etc. Mais la vérité, nous le savons, c'est que la capacité décisionnaire des usagers, des habitants, de la population est très faible. L'une des choses qui est une clé de compréhension de ce type de conflit, c'est, je n'en ai pas parlé par manque de temps, c'était prévu mais je n'ai pas eu le temps, beaucoup de nouveaux équipements sont construits dans le cadre de projets de rénovation urbaine. Pourquoi? Nous le savons, très simplement parce que c'est à ce moment-là que les communes ou que les collectivités territoriales vont avoir l'argent suffisant pour pouvoir le faire. Ils ne peuvent pas, avec leurs propres moyens, construire un équipement. Bon, donc, ils profitent. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, du coup, là, les habitants sont totalement dépossédés de toute possibilité de contrôle de ce qu'il faut faire, etc. Il y a une demande sociale diffuse qui est interprétée par les responsables politiques et qui vont agir ensuite. Mais de là à ce que les personnes, les bénéficiaires, se sentent partie prenante des décisions, il y a une grande distance. Même si, ou même lorsque, ils pensent que ce qui est fait est très bien. Ça peut être très bien. Ça peut être, la communication peut être très excellente. Le travail, bon. Mais il n'en demeure pas moins vrai que cette question se pose et c'est une question fondamentale. Il y a un sentiment de dépossession qui est très fort dans ces catégories sociales. Et plus le nombre de chômeurs est important et plus le sentiment de dépossession est grand. Pour une raison très simple, quand un individu travaille, vous avez entendu dire tous les jours que l'entreprise est la seule créatrice de richesses. Bon. Mais il y a une autre version de cette même affaire, que c'est que c'est le travail qui crée la richesse. Seulement, le travail est fait dans les entreprises. Nous autres fonctionnaires, nous ne faisons que vivre sur le dos des autres. Mais dans les entreprises, il y a des gens qui travaillent et qui créent de la richesse. Bon. Mais celui qui ne travaille pas, il a un problème de dépossession fondamental parce qu'il ne sait pas à titre de quoi il mérite tout ce dont il bénéficie. Et dans ces espaces, dans ces segments des classes populaires dont je vous parle, ce problème est particulièrement aigu parce qu'il y a un tas de problèmes relatifs à la survie et à la vie familiale qui sont résolus ou qui sont entre les mains des institutions. Le logement, les allocations, l'école, la santé, etc. Et donc, la prise des individus pour avoir une légitimité dans l'exigence des droits et des droits à la parole notamment, est très faible. Parce qu'il y a toujours le soupçon, ces gens, ils foutent rien, on leur donne, et en plus, ils ne sont pas contents. Donc effectivement, ce problème est un problème majeur, mais c'est un problème qui n'est pas de solution facile. Parce que très probablement dans l'état actuel des choses, si vous demandez aux gens, vous n'avez pas une bibliothèque.
On va conclure sur cette pensée.